Radio Okapi. Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Bobo Boloko, réélu gouverneur de l'Équateur pour un troisième mandat, il a obtenu 14 voix sur 21 votants. Ce double scrutin a également doté l'Équateur de 4 sénateurs. Ce scrutin met ainsi fin à la tension qui a régné pendant plusieurs semaines au sein de la classe politique et des institutions provinciales de l'Équateur. Environ 10 citoyens étrangers interpellés par les forces de défense et de sécurité à Goma. Ils sont accusés de séjour irrégulier et de violation de la réglementation sur l'exercice du petit commerce. Ils ont été présentés hier à la presse par le maire de la ville de Goma. Et puis, Madame Espérance Baedila est l'invitée de ce journal, professeure et doyenne de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC. Elle nous parle de son intervention au colloque international sur la question de parité hommes-femmes en RDC, colloque organisé récemment à l'Université officielle de Mbujimayi au Kasaï oriental. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de la province de l'Équateur avec la réélection hier du gouverneur Bobo Boloko pour un troisième mandat. Il a été réélu avec à la majorité de 14 voix sur 21 votants. Cela met ainsi fin à la tension qui a régné pendant plusieurs semaines au sein de la classe politique et des institutions provinciales de l'Équateur. Ce double scrutin a également doté l'Équateur de 4 sénateurs qui vont représenter la population au niveau de la Chambre haute du Parlement. Reportage de Paul-Richard Malengela.
18 candidats gouverneurs étaient en lice, mais après le scrutin démocratique, Dieudonné Boloko Bulumbu, candidat à sa propre succession, a été proclamé vainqueur avec 14 voix sur 21 votants, tandis que son challenger, le professeur Mboyo Ngele, a obtenu 7 voix. Le gouverneur Bobo reprend alors les rênes de l'Équateur et pour les 5 prochaines années, il promet de tout mettre en œuvre afin de parachever ses projets de développement selon la vision du chef de l'État. Cependant, la population qui a salué cette réélection exige à l'autorité provinciale de bannir les antivaleurs passées et de promouvoir l'unité des Équatoriens. Plusieurs mandataires lui recommandent la création de plus d'emplois pour les jeunes, la fin du non-paiement du gouvernement et des services provinciaux, ainsi que la lutte contre le banditisme urbain dit Kuluna et d'être rassembleur. Quant aux 4 sénateurs élus de la province de l'Équateur, il s'agit de Jonas Mukamba, Bokech Bofili, Jean-Claude Baïndé et de Bolenge Bokofé. Les 2 premiers sont élus avec 4 voix, tandis que les 2 derniers avec 3 voix chacun. Notons que ces opérations électorales ont été supervisées par une délégation de la CENI Kinshasa. Elles se sont déroulées sans incident grâce au professionnalisme de la police nationale. Bondaka pour Chamalingue, la Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, la CENI a publié hier la liste provisoire des sénateurs élus pour le compte de cette province. C'était à l'issue d'un vote organisé dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. 4 candidats, dont une femme, ont été proclamés vainqueurs sur 52 candidats en lice. Il s'agit de Idi Tabani de la FDC, Noëlla Bashibandie de AAUNC, Daniel Bagno et Sami Adubango du CNC. Au Kwango, Willy Bitwisila est le nouveau gouverneur élu et Saki Rémy, vice-gouverneur, tous deux indépendants. La cour d'appel du Kwango, siégeant en matière de contentieux électoral au premier degré à Kenge, chef-lieu de la province, confirme les 2 élus. Dans son rendu, le premier président de cette cour, Hilaire Mwepo, a signifié que dans cette province, aucun recours n'a été initié contre l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Par ailleurs, à propos de la validation des pouvoirs des sénateurs, le bureau provisoire du Sénat a mis en place 5 commissions pour examiner les dossiers des 84 sénateurs nouvellement élus. Au cours de la plénière d'hier, le président du bureau d'âge du Sénat a précisé que la validation des pouvoirs va se poursuivre après l'élection des sénateurs dans les provinces en attente. Ces commissions ainsi mises en place ont un délai de 6 pour présenter leur rapport à l'Assemblée plénière. On écoute à ce sujet Pascal Kinduelo, président du bureau d'âge du Sénat. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Je signale que c'est un processus qui commence aujourd'hui par la constitution des commissions spéciales. Il se poursuivra au sein de ces commissions jusqu'à la validation des pouvoirs après présentation des rapports des commissions spéciales à la plénière. À cet égard, votre bureau s'est référé aux dispositions de l'article 227 de la loi électorale. Votre bureau a opté pour la mise en place de plusieurs commissions spéciales en vue d'une grande efficacité de travail. À ce sujet, je rappelle que 6 provinces n'ont pas encore voté leurs sénateurs. C'est ainsi que celles 84 seront représentées. Votre bureau a regroupé les 84 sénateurs en 5 commissions spéciales constituées chacune des sénateurs de 4 provinces qui vont examiner les dossiers des 4 autres provinces. Je vous informe que la validation du pouvoir se poursuivra au fur et à mesure à l'arrivée des sénateurs qui doivent encore être élus.
Dans l'actualité, sachez aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en RDC. Cette délégation des diplomates qui vient de rencontrer le chef de l'État pour la première fois depuis sa réélection en décembre 2023 était conduite par Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. C'est une rencontre planifiée de longue date, a-t-il déclaré à la presse. Plusieurs points ont été abordés, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays. À ce sujet, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de sa solidarité avec le peuple congolais. Je vous l'ai dit dans les titres, à Goma, environ 10 citoyens étrangers ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité. Ils sont accusés de séjour irrégulier et de violation de la réglementation sur l'exercice du petit commerce. À leur nombre, des commerçants ambulants qui proposent des kits d'ustensiles de cuisine et divers articles à travers les rues et parfois au porte-à-porte. Le maire de Goma qui les a présentés à la presse renseigne que ces personnes ont été arrêtées lors d'une opération de bouclage dans la nuit de mercredi à jeudi. Chris Moukand Matande, reportage.
Devant caméras et micros, le commissaire supérieur principal, Faustin Kapen Kamande, indique que l'arrestation de ces personnes entre dans le cadre de l'opération dénommée Safisham Djiwa Goma, en français, assainir la ville de Goma. Les quartiers ciblés ont été Lac Vert, Ndosho et Kieshero.
Nous avons mené une opération de bouclage ciblé dans certains quartiers de la ville de Goma où nous avons appréhendé les amis Maasai qui sont tanzaniens. Il y a un Égyptien, il y a un Français d'origine sénégalaise qui sont en séjour irrégulier. Ils sont dans toutes les rues de la ville de Goma. Ils sont dans certains coins de la ville, non pas un petit sein, en exploitant leurs activités, nous trouvons que c'est un trompe-l'œil. Ils ont un agenda caché. Nous avons un problème de fondamentalistes qui sont avec les M23.
Les Maasai, on le reconnaît alors à Kotroma. Ils sont drapés de motifs à carreaux et chaussés de sandales faites maison. Ils marchent généralement en file indienne. L'autorité urbaine précise que la Direction générale de migration, DGM en sigle, devrait analyser au cas par cas la situation de chacune des personnes interpellées. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
Restons en Nord Kivu, dans le territoire de Beni, nous apprenons que la localité de Supakalaou est entourée des foyers d'insécurité. C'est une zone agricole du groupement de Bouliki et l'un des greniers de Beniville, situé à 15 km au sud-est de la ville de Beni. Cette zone est considérée comme un couloir de passage des rebelles des EDF qui proviennent du parc national des Virunga. Les autorités locales demandent le déploiement des militaires dans la zone pour renforcer leur sécurité. Marc Marofimbo revient de la zone et nous décrit la situation.
La localité de Supakalaou est entourée par deux groupes armés locaux et de rebelles des ADF actifs dans la région. Du côté est, elle partage les limites avec le village Mangolikene et la rivière Semuliki. Au nord, il y a la forêt de Mayangose, une partie du parc national de Virunga. Côté sud, on a les villages de Murandi, Mutohu, Kuba et autres. Il s'agit d'une région de production agricole où l'on cultive notamment du maïs, du haricot, du chou, de la tomate et du riz padi. Quelques positions militaires des FARDC et de l'armée ougandaise UPDF sont présentes dans la zone dans le cadre des opérations conjointes contre les ADF. Cependant, cette présence militaire n'est pas suffisante pour empêcher la traversée des ADF du côté sud vers le nord du territoire de Beni. Bosco Paluku, chef adjoint de Supakalaou, plaide pour un renforcement des effectifs militaires dans la zone. Pour rappel, la localité de Supakalaou a été attaquée par des ADF à 3 reprises et des dizaines de cultivateurs y ont été tués. La notabilité demande également au gouvernement de songer à la reconstruction des infrastructures de base qui ont été détruites par les rebelles. Ce sont notamment des écoles et des structures sanitaires. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Les rebelles des EDF continuent de faire parler d'eux. 4 civils ont été tués et plusieurs autres portés disparus. C'était lors d'une nouvelle attaque attribuée à ces rebelles dans la nuit de jeudi à hier vendredi à Maïmoya, localité du territoire de Beni, située à une quarantaine de kilomètres de Beniville. Selon le président de la société civile locale qui donne l'information, il s'agit d'un bilan encore provisoire. André Kitenge.
C'est en plein milieu de la nuit de jeudi à ce vendredi que les rebelles des ADF ont attaqué le centre de la localité de Maïmoya. Selon Gibson Yango Bouema, président de la société civile locale, 4 civils dont 2 femmes ont été tuées à l'arme blanche par les assaillants. Il indique que plusieurs autres personnes sont portées disparues. Une maison a été également incendiée, des kiosques pillés et des petits bétails emportés par ces rebelles. Une attaque qui a occasionné le déplacement massif de la population vers des zones sécurisées alors que la situation sécuritaire reste précaire sur place à Maïmoya. La même source indique que les soldats des FRDC et de l'armée ougandaise UPDF présents dans la région sont intervenus en poursuivant l'ennemi qui s'est dirigé vers l'ouest de la route nationale numéro 4. Pour le moment, c'est la psychose qui gagne la population de la région, craignant pour la vie des personnes enlevées. Pour parer à toute éventualité, les forces conjointes FRDC-UPDF se sont positionnées aux alentours du centre de santé de référence de Maïmoya, rapporte la société civile locale. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Sud Kivu, les cadres et acteurs locaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS disent être prêts à prendre la relève après le départ de la MONUSCO de cette province. Durant 7 jours, ils ont renforcé leur capacité en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés. Formation organisée par la section DDR de la MONUSCO et clôturée jeudi à Goma. C'est dans le cadre de transfert des compétences MONUSCO-gouvernement, le contrôle de Denise Lukeso.
La protection des civils reste un défi à relever avec l'activisme des groupes armés au sud Kivu qui s'attaquent aux civils, déplore le chef de bureau de la MONUSCO Goma. Omar Aboud estime que cette formation va aider les acteurs locaux à relever ces défis.
De nombreux groupes armés restent encore actifs au sud Kivu et s'en prennent régulièrement aux civils tout en sapant l'autorité de l'État. Tous les acteurs locaux devraient être capables de prendre le relais afin de relever les défis liés à la protection des civils auxquels la province fait face.
Benjamin Kalumiri, chef de section désarmement et démobilisation du PDDRCS Sud Kivu, s'est dit prêt maintenant, à l'issue de cette formation, à prendre la relève après le départ de la MONUSCO.
Nous sommes très bien outillés pour prendre la relève et surtout que nous avons encore une année à passer avec la MONUSCO pour pouvoir, disons, mener en termes toutes ces activités. Nous avons besoin d'un accompagnement beaucoup plus technique.
Rappelons que cette série d'ateliers entre dans le cadre des transferts de compétences MONUSCO au gouvernement congolais. Le Sud Kivu est la province pilote de ces processus. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Autre nouvelle, l'AGECAMINE s'est dit opposé à la série de recommandations de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP. C'est notamment après que l'ARSP a recommandé une 20aine des sociétés sous-traitantes à Tenke Fungurume Mining. L'AGECAMINE, actionnaire dans TFM, fustige par ailleurs le fait qu'elle a été exclue de ce processus de recommandation alors qu'elle a un accord transactionnel avec TFM sur notamment des questions de sous-traitance. Explication Cynthia Bachizi.
Ce grincement des dents de l'AGECAMINE est contenu dans un courrier qui nous est parvenu ce vendredi 24 mai. La lettre signée entre autres par le directeur général de l'AGECAMINE est adressée au président du groupe CEMOC, géant mondial du cuivre, qui détient Tenke Fungurume Mining, en recommandant la 20aine d'entreprises sous-traitantes à TFM, mine de cuivre de classe mondiale. L'AGECAMINE reproche à l'ARSP de s'arroger de ses charges en tant qu'actionnaire à hauteur de 20%. Conséquence, la société publique congolaise dit ignorer le contenu des entendements convenus entre l'ARSP et TFM, surtout poursuit-elle qu'elle n'a pas été associée à cette démarche, tout comme le ministère de portefeuille. Sa direction générale rappelle avoir conclu en mars dernier un accord portant sur un cadre d'échange avec l'ARSP. Objectif, discuter sur toutes les problématiques liées à la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Pour l'heure, l'ARSP n'a pas encore répondu à la GECAMINE mines. Pour rappel, la Fédération des entreprises du Congo était également contre cette démarche de recommandation initiée par l'ARSP qui ne favorise pas une concurrence loyale selon le patronat congolais.
Notez aussi dans l'actualité que les membres de la CORAP, Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, interpellent le gouvernement congolais sur ce qui s'apparente à un manque de vision claire pour l'émergence du secteur énergétique. Dans une déclaration publique du 22 mai en cours, CORAP trouve incohérent que la RDC signe un nouveau protocole d'accord pour un investissement dans le projet de construction du barrage Inga avec une firme nigériane sans résultat concret sur le terrain des comptes précédent, nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Le Kenya, élevé au rang d'allié majeur des États-Unis. En effet, à l'occasion de la visite d'État de William Ruto aux États-Unis, Joe Biden a désigné le Kenya comme allié majeur, non membre de l'OTAN. 18 autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui confère aux pays qui en bénéficient des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. En Afrique, après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya deviendrait le premier pays d'Afrique subsaharienne à l'obtenir.
L'invité.
L'université officielle de Mbujimayi vient d'organiser un colloque international sur la question de la parité homme-femme en RDC, regard sur le comportement croisé. Ce thème a suscité plusieurs réactions dans la salle après l'intervention de la doyenne de l'Université des sciences de l'information et de la communication, UNISIC, de Kinshasa. Professeure Espérance Baïdila est notre invitée. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Espérance Baïdila. Vous êtes intervenu dans le colloque international organisé par l'Université officielle de Mbujimayi. Vous avez parlé de la question de la parité homme-femme, regard sur le comportement croisé, une relecture contextuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de votre exposé?
Donc, pour ce colloque international, nous sommes en train de parler des idées, des écrits d'un homme, un grand scientifique de notre pays, qui est en fait le professeur Kambayi Boacha. Et par rapport à ses écrits, chacun de nous prend justement un sujet en rapport avec ses publications, ce qu'il a lu, et il vient justement faire une relecture contextuelle ou une relecture critique de ses œuvres. Et moi, j'ai lu un ouvrage de Kambayi Boacha qui a parlé sur la question de la parité homme-femme, regard croisé. J'ai trouvé ça très intéressant dans ce sens que quand vous voyez un homme dans notre pays, un homme africain, un homme surtout congolais, mais à plus forte raison un homme du Kassai, excusez-moi, parler de la question de la parité, ce n'est pas quelque chose à négliger. Les hommes chez nous parlent très rarement de la question de la parité parce que comme vous le savez, nous avons certainement des lois, nous avons des textes en fait qui viennent essayer de régler la question de la parité homme-femme dans notre pays, mais dans les faits, les choses se font encore très difficilement. Et j'ai l'habitude de dire que le Congo est un pays fortement masculinisé. Il suffit de regarder les instances qui nous dirigent. La femme a très peu de place, surtout dans les instances décisionnelles. Elle est sous-représentée encore aujourd'hui, même s'il y a des efforts qui se font.
D'après vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'effectivité de la parité homme-femme en RDC?
D'abord, moi, je parle de la volonté politique. Parce que, en fait, croyez-moi, dans les pays où aujourd'hui, on ne parle plus de la question de la parité comme chez nous, il y a eu cette volonté politique de vouloir changer les choses. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez le président Tshisekedi, il a augmenté le nombre des femmes dans les instances décisionnelles parce qu'il a une volonté politique de vouloir faire les choses. Donc, en fait, si cette volonté politique devient encore beaucoup plus sérieuse, les choses vont changer. Mais aussi, il y a cette prise de conscience dans le chef de la femme, la prise de conscience de savoir, en fait, mais la femme, c'est un être humain à part entière. Elle dispose de toutes les facultés, des capacités qui peuvent faire d'elle, en fait, un dirigeant, une dirigeante à n'importe quel niveau de la société. Elle est vraiment capable. S'il faut prendre les gens de manière individuelle, il y a des femmes qui ont beaucoup d'atouts plus que des hommes et qui peuvent vraiment atteindre des niveaux plus élevés de gouvernance dans notre pays ou dans le monde.
Mais pourquoi les hommes regardent toujours la femme avec un regard méfiant? Aujourd'hui, on a une femme première ministre, mais quand les hommes parlent, ils disent oui, oui, voilà, c'est une femme, mais pourquoi ce mais revient souvent?
C'est le cas pour les hommes que nous avons dans la salle, mais nous sommes dans un colloque scientifique, un colloque international. international, où vous avez des hommes qui viennent de partout, mais ils sont chargés de préjugés et de stéréotypes. C'est comment est-ce que les hommes regardent les femmes? Comment est-ce que les hommes considèrent la femme? Donc en fait, ce poids de la culture, ce poids des coutumes, des préjugés, des stéréotypes, continue encore à peser lourdement dans les chefs de l'homme congolais dans notre pays, mais également des femmes, parce que c'est toute la société en fait qui est embrigadée dans cette histoire. Mais en fait, les gens qui ne connaissent pas, par exemple, la dame qui est nommée première ministre, ils peuvent parler, mais moi je la connais. Elle est très compétente, mais le cerveau que nous avons en réalité n'a pas de sexe. L'intelligence n'a pas de sexe, la science n'a pas de sexe. Elle est capable, donc au-delà de compétences, au-delà de ce qu'on peut avoir comme capacité pour faire les choses, mais il y a les questions d'ordre politique, il y a la pratique politique dans notre pays qui pose problème.
Quelle lecture faites-vous quand on dit que les femmes participent à leur propre domination?
Si je dois l'expliquer scientifiquement, je l'expliquerai par un concept que je tiens de Pierre Bourdieu, un sociologue français qui parle du concept de violence symbolique. En fait, la violence symbolique voudrait tout simplement dire que les dominés participent à leur domination et ils sont également complices de leur situation. Et c'est un peu le cas de la femme dans notre pays. Elle sait qu'elle est compétente, mais quelque part encore, il y a des choses qu'elle supporte, qu'elle accepte, parce qu'encore, comme je dis, ce poids des coutumes, des us, des préjugés, et c'est chaque jour que la femme prend conscience et cherche à changer.
Professeur Espérance Bayedila, merci.
Oui, je vous dis merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.